monde, selon Éric Arsenault, au 95.7 Kick.
Mais il y a aussi beaucoup de pays en voie de développement qui sont préoccupés par le fait que des engagements qui ont été pris à Paris en 2015 n'ont pas été entièrement respectés. On n'est pas rendu encore à 100 milliards de dollars par année en financement pour le climat. Le Canada est en train justement de travailler avec l'Allemagne pour y arriver, pour encourager les gens, et on va s'y approcher.
Justin Trudeau a déclaré hier qu'il aurait souhaité que la rencontre du G20 de cette fin de semaine à Rome résulte en un accord plus ambitieux au sujet de la lutte au changement climatique. On va aller en discuter avec Éric Arsenault, professeur d'actualité internationale en ATM, selon Alexandra, le meilleur professeur de la cohorte. Monsieur Arsenault, bonjour.
Monsieur Courchaine, c'est un plaisir.
Oui, hey, je me suis permis de casser du sucre sur le dos de Justin tantôt parce que je trouve qu'en matière de lutte au changement climatique et en matière de diminution des émissions. Le Canada n'a pas de leçon à donner à personne. Là. Semble-t-il qu'on est les cancres du G7 en bonne dernière position derrière tout le monde?
Et historiquement, le Canada, compte tenu de notre population, est probablement l'un des plus grands pollueurs de la planète. Et tu as raison de le souligner, Justin Trudeau s'est souvent fait critiquer parce que d'un côté, il a un discours vert et très environnementaliste, mais de l'autre, tout le monde se souvient que le gouvernement canadien a acheté il y a quelques années un pipeline pour exporter le pétrole des sables bitumineux. Alors, dans certains sens, il y a certains qui disent que c'est incohérent un peu la position de M. Trudeau, qui néanmoins, à l'échelle internationale, passe pour être effectivement un dirigeant qui est plutôt attaché à l'environnement.
Hey, Éric, explique-nous c'est quoi le G20. T'sais, là, je viens de parler du G7, le G20, COP26, ça devient mêlant, mais le G20 génère tout près de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça que la rencontre en fin de semaine est importante en prévision de la COP26.
Voilà. Alors, le G20, dans le fond, c'est les 20 pays les plus riches de la planète. Et ils représentent à eux seuls 80% du produit intérieur brut mondial, de l'économie mondiale. Mais comme tu as raison de le souligner, compte tenu du fait qu'ils sont les moteurs de l'économie mondiale, ce sont également les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde. 80% des GES passe effectivement par le G20. Alors, le Canada, évidemment, en est membre, parce que le G7, c'est un petit groupe restreint, là, avec les États-Unis, le Japon, la France, le Royaume-Uni, etc. Le G20, ça regroupe, c'est beaucoup plus représentatif, je te dirais, parce que t'inclus là-dedans la Chine, t'inclus l'Inde, t'inclus le Brésil, t'inclus... Alors, c'est beaucoup plus représentatif. Et la rencontre qui avait lieu à Rome en fin de semaine dernière visait justement, dans un certain sens, à paver la voie à la grande rencontre de l'ONU sur les changements climatiques qui a débuté à Glasgow, en Écosse. Puis on se rend compte, on attendait beaucoup de choses de cette rencontre du G20 à Rome, notamment des engagements beaucoup plus ambitieux des pays en faveur d'une réduction des émissions de GES. Puis on se rend compte que finalement, les promesses sont pas tout à fait au rendez-vous.
Non, d'ailleurs, là, on veut atteindre la carboneutralité d'ici 2050 pour les pays du G20, mais... Ah, on a donné un joker à la Chine et à la Russie. On dit, ah, ben vous autres, vous pouvez vous rendre jusqu'en 2060. D'ailleurs, la Chine et la Russie brillaient par son absence en fin de semaine et vont briller. Ils vont briller par leur absence à cette fameuse COP26.
Tu as parfaitement raison. Et pourtant, la Chine est devenue maintenant un joueur absolument incontournable. La Chine, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre du monde. 27% des émissions de GES dans le monde sont originaires de la Chine. Toute proportion gardée, per capita, les États-Unis sont le plus gros pollueur mondial, mais la Chine, en termes absolus, est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Et toute solution passe nécessairement par la Chine, qui, au cours des 25 dernières années, s'est industrialisée d'une façon absolument considérable. Et le problème en Chine, c'est qu'une grande partie d'électricité qui est produite là-bas l'est encore par du charbon, par des centrales au charbon. Et on le sait, le charbon, c'est une énergie extrêmement polluante qu'on essaie justement d'éliminer. Et on construit en Chine encore de nouvelles centrales au charbon. Donc, les Chinois, ils vont falloir qu'ils fassent leur part aussi là-dedans. Et les objectifs chinois manquent effectivement d'ambition. Même si on parle de carboneutralité d'ici 2060, Richard, tu le sais, entre promettre quelque chose puis livrer la marchandise, puis souvent, il y a deux mondes.
Ben c'était justement ma prochaine question, parce qu'en fin de semaine, le G20, on dit, bon, on va prendre les mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des moyennes pré-industrielles. Mais déjà, il te fait référence à l'accord de Paris. L'accord de Paris visait à limiter une augmentation de la température mondiale à 2,2 degrés Celsius. Mais ça, c'était à condition en 2015 que tout le monde respecte sa parole, alors qu'il y a la moitié de ces pays-là qui ne l'ont pas respecté. Les États-Unis, entre autres, sous l'ère de Donald Trump. Donc là, ça devient inquiétant. On en parlait avec Sylvain Gaudreau la semaine dernière. Si on ne fait rien, d'ici la fin du siècle, la température mondiale pourrait monter en moyenne de 5 degrés. Quel serait, Éric, un objectif raisonnable pour cette fameuse COP26 et objectif qu'on va être capable d'atteindre?
Là, il y a toute la question entre l'objectif puis les façons de l'atteindre. Parce que tu as raison de le souligner, l'objectif du 1,5 degré Celsius, ça paraît déjà pour bien des gens totalement irréaliste et complètement illusoire. Ouais. C'est trop tard. Parce que même si les États respectaient les engagements qu'ils ont pris en 2015, l'accord de Paris, ça permettrait pas d'atteindre l'objectif. Ça occasionnerait une augmentation des températures d'à peu près 2,7 degrés Celsius. Et ça, c'est si les États respectaient ce qu'ils avaient dit en 2015. Or, tous les États ne respectent pas justement leurs engagements. La plupart des États sont même pas capables de respecter leurs promesses. Donc, la trajectoire à l'heure actuelle, c'est une augmentation de la température à l'échelle mondiale de 2,7 degrés et probablement plus. Alors, il faut nécessairement augmenter la cadence. Et on avait vu lors de la pandémie en 2020, il y a des gens qui s'étaient frottés les mains en disant « Wow, je pense qu'on va y arriver ». Parce que pendant la pandémie, ouais, il y a eu effectivement une diminution sensible des GES. Ouais. Et on comprend pourquoi l'économie mondiale s'est trouvée paralysée à cause de la COVID. Et on l'a vu, à partir du moment où la reprise économique s'est fait sentir, ça a été « business as usual » et retour à la normale. Alors, on s'attend à ce que les émissions de GES augmentent de 16 % d'ici 2030, alors qu'elles devraient baisser de 45 % pour atteindre les objectifs. Donc, l'objectif du 1,5 degré Celsius, aujourd'hui, ça paraît à toute fin pratique inatteignable.
Oui, j'y ai fait référence tout à l'heure. Les Américains ont été absents, justement, du débat climatique pendant 4 ans sous l'ère de Donald Trump. Est-ce que tu penses que Joe Biden, qui sera présent à Glasgow, en Écosse, va pouvoir donc faire office de leader et d'être capable d'engager les autres nations derrière les États-Unis? Est-ce que les États-Unis là, sont de retour? On sent Joe Biden beaucoup plus sérieux que son prédécesseur.
Définitivement. Et en matière climatique aussi. Et il n'est pas juste à l'échelle internationale, il est également chez lui, à la maison. Parce que dans l'espèce de grand plan d'investissement là, qu'il propose, qui sont en négociation actuellement au Congrès, il y a tout un volet consacré aux énergies vertes. Alors oui, effectivement, même si en bout de ligne, tu ne fais pas virer les États-Unis Saint-Dicenne, là, c'est comme un paquebot, ça ne vire pas aussi vite qu'on pense. Mais ne serait-ce que le changement d'attitude, le changement de ton, la volonté de Joe Biden de parler, de jaser, de négocier avec les autres dirigeants, déjà, ça crée une dynamique qui est très différente de celle de Donald Trump, qui avait retiré les États-Unis de l'accord de Paris en disant que ça nuisait à son économie, puis il avait envoyé tête tout le monde. Alors que les États-Unis, déjà, soient de retour à la table, considérant leur influence, ben ça, évidemment, ça pourrait peut-être être un effet, j'allais dire, accélérateur ou mobilisateur au niveau des États. Sauf que les États-Unis sont maintenant plus les seuls. On parlait de la Chine tantôt, mais il y a la Russie également, il y a le Brésil. Le président Bolsonaro ne sera pas à la conférence de Glasgow. Et pour une simple et bonne raison, c'est un climato-sceptique déclaré. Et on voit ce qui se passe, la forêt amazonienne rapetisse à vue d'œil. Et la déforestation atteint des niveaux records. En Russie, c'est la même chose. Vladimir Poutine mise tout sur le secteur pétrolier et sur le secteur gazier. Puis lui, Poutine, il dit, ben, savez-vous quoi, le réchauffement climatique, un, c'est pas trop dramatique, puis c'est peut-être même bien, ça nous permet de faire pousser du blé en Sibérie, de faire naviguer. Ben, c'est vrai, c'est la réalité. En disant, le réchauffement climatique, c'est pas une mauvaise chose. Et on le voit dans certaines régions nordiques, on a réussi effectivement à faire pousser du blé. Vladimir Poutine également voit d'un très bon œil, aussi paradoxal que ça puisse paraître, le retrait des glaces dans le nord, parce que ça permet d'ouvrir de nouvelles routes maritimes à la navigation dans l'Arctique. Alors, Vladimir Poutine a des raisons autres que, même si, bon, la Russie a des objectifs qui sont plutôt vagues en matière de réduction de gaz à effet de serre, il en reste pour moins qu'il y a des enjeux géostratégiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la lutte contre les GES pour la Russie.
OK. Alors, même si on s'entend à Glasgow, en Écosse, puis là, ça va durer 2 semaines, cette conférence-là, donc, sur le climat, ben, il ne faudra pas compter sur le Brésil, la Chine et la Russie.
Ben, la Chine, peut-être, reste à voir. Son président sera pas là. Ouais. Ça ne veut pas dire que les Chinois ne peuvent pas s'engager à faire des choses. Mais il faut savoir que Xi Jinping, depuis le début de la COVID, de la pandémie, n'est pas sorti de chez lui. Donc, ça aurait été surprenant. Ça fait 18 mois qu'il n'a pas mis les pieds à l'extérieur de la Chine. Ça aurait été surprenant de le voir sur place. Mais évidemment, ça aurait peut-être envoyé un signal fort. C'est pas interdit de penser que les Chinois vont quand même faire des pressions pour tenter de faire avancer les choses. Mais évidemment, est-ce que ça va être dans le sens de leurs intérêts ou dans le sens du climat planétaire? Ça, c'est une autre paire de manches.
Merci beaucoup, Éric Arsenault, puis bonne semaine du côté du Cégep de Jonquière.
Merci à vous autres aussi. Bye-bye, à la prochaine.
Salut, Éric Arsenault. Donc, tu as été ton professeur d'actualité.
Ben oui, ben oui.
Alors, moi, il me manque un cours, hein, tu sais, pour avoir mon deck. Fait que je pense que je vais aller faire son cours.
Mais tu devrais. Mais, ouais. Mais pour vrai, c'était vraiment intéressant.
Oui.
C'était passionnant de suivre son cours. Puis là, je prenais mes notes, là, puis là, j'étais stressé. J'étais là, attendez, j'ai pas fini de prendre cette diapo-là en notes.
OK.
Et on me dit que son examen ne s'étudiait pas la veille. C'est ce que tous les étudiants d'ATM m'ont dit.
Oui, oui. Exactement. C'était le speech qu'ils nous disaient tous.